Dialogue entre Congolais présenté par Alain Rung.
Bonsoir, Assemblée nationale. Adoption la semaine passée de la proposition de loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Cette commission, qui sera exclusivement composée de membres de la société civile, aura entre autres attributions réaliser les enquêtes sur tous les cas de violation des droits de l'homme, orienter les victimes et les accompagner à traduire en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme. Quelle analyse faire de cette loi? Quel pourrait être son apport dans l'amélioration du respect des droits humains en RDC? Nous recevons pour en parler Maître Willy Makiachi, député national de la majorité au pouvoir et cadre du parti Lumumbiste Unifié Palou. Il est membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Honorable Makiachi, bonsoir.
Bonsoir.
Fernandez Moreau, la secrétaire exécutive nationale du réseau national des ONG de défense des droits de l'homme de la RDC, RENADOC. Monsieur Moreau, là, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Guylain Maléré, avocat et consultant auprès des ONG de défense des droits humains et de renforcement des capacités. Il pourra nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Jean-Pierre Ngouma de Bandundouville. Je salue l'adoption de cette loi qui vient ajouter un plus en matière de droits de l'homme en RDC. Emmanuel Chibangu de Mbujimayi au Kassai Oriental, l'analyse à faire sur cette loi adoptée par le parlementaire est que dans notre pays, nous avons toujours des bonnes lois, mais les problèmes se posent au niveau de leur application. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté la semaine passée la proposition de loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Cette commission, qui sera exclusivement composée des membres de la société civile, aura entre autres attributions réaliser les enquêtes sur tous les cas de violation des droits de l'homme. Mais quelles sont les innovations que cette loi apporte en matière de respect des droits de l'homme? Réponse avec Eve Bazaïba, députée nationale de l'opposition et présidente de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale. Elle est au micro de Kéline Kouté.
Ça sera vraiment une institution consultative vis-à-vis du gouvernement en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme. Sa composition exclusivement de la société civile, nous osons croire que nous allons avoir des personnalités compétentes et spécialistes en matière des questions des droits de l'homme, parce qu'il ne suffit pas d'être juriste et maîtriser automatiquement la matière des droits de l'homme. C'est une spécialité, c'est une spécificité. Autre chose, ça va permettre au gouvernement congolais, par rapport à la compétence qu'on va donner à cette commission nationale des droits de l'homme, la compétence matérielle et même la compétence territoriale, sans effreindre aux conventions internationales en matière diplomatique, c'est de s'occuper de la protection, la promotion des droits non seulement des Congolais et des étrangers vivant au Congo, mais spécialement aussi des Congolais vivant à l'étranger. Parce que c'est une matière qui nous manquait, les compatriotes de la diaspora se sentaient un peu abandonnés. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que en plus du fait qu'il y a les membres du bureau, l'Assemblée nationale a proposé 9 membres du bureau, il y aura 4 membres qui auront des fonctions classiques et il y aura 5 autres membres qui vont s'occuper essentiellement des commissions suivant les générations des droits et l'approche décentralisée de la chose. Donc nous aurons les représentants des différentes provinces.
Maître Willy Makiachi, vous êtes député national de la majorité au pouvoir et cadre du parti Lumumbiste Unifié Palou. Vous êtes membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Quelles sont les innovations contenues dans cette loi, honorable Makiachi?
En termes d'innovation, vous savez, dans les droits humains, il n'y a pas d'innovation. On ne peut pas vraiment parler d'innovation parce que les droits humains sont inhérents à l'homme. Et les droits humains sont issus d'abord de la divinité. Et au demeurant, vous savez, même au niveau de l'Organisation des Nations Unies, les droits humains ont été ainsi consacrés comme étant issus de la divinité. Donc on ne peut pas dire qu'on innove ou qu'on invente. Mais ce qui est mieux à dire, c'est beaucoup plus à dire qu'on concrétise. On est en train de matérialiser la prise en compte de ces droits humains pour que l'homme vive effectivement ses droits. En ces termes, ça pourra être normalement exprimé. Donc la Commission nationale des droits humains est parmi les institutions d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Les droits humains, les libertés fondamentales sont les piliers de la démocratie. Donc la Commission nationale des droits humains renforce la Constitution. Ça renforce la Constitution qui, elle, a déjà consacré une trentaine d'articles sur les droits de l'homme ainsi que les libertés de cet homme. Donc, les libertés fondamentales. C'est pourquoi je ne peux pas vraiment parler d'innovation parce que la Constitution a déjà consacré une trentaine d'articles, comme je viens de dire. Donc, la Commission nationale des droits de l'homme minore, si on peut parler d'innovation, elle vient minorer les poids de l'arbitraire consacrant et élevant un temple à l'état des droits.
Voilà. Alors, Maître Makiachi, cette commission, la suivie sera exclusivement composée de membres de la société civile. Est-ce pour, je sais pas, cette disposition a été adoptée? Est-ce par rapport à l'expérience vécue avec la CENI et d'autres institutions, par exemple?
Oui, bien entendu. Pas seulement l'expérience vécue avec la CENI, parce que la commission électorale, en 2006, était dirigée par un membre de la société civile, en la personne du révérend Abbé Malumalu. En 2011 et à ce jour, elle est encore dirigée des mains d'un membre de la société civile, un homme de l'Église, le pasteur et docteur Ngoï Mulunda. L'Église est la société civile par excellence. On ne peut pas mettre l'Église en cause. Donc, le problème n'est pas tellement le problème de structure. Mais on dit société civile pour faire une démarcation par rapport aux politiciens actifs. Mais le problème, c'est un problème d'homme, un problème de personnalité, un problème de moralité. Donc c'est un problème comportemental. Mais nous prenons tout de même, nous avons voulu que ce soit dans cette sphère dite des forces vives, donc de la société civile. Mais d'où viendra ces hommes-là de la société civile, encore que la société civile en République démocratique du Congo jusqu'ici, c'est encore une nébuleuse, parce qu'il n'y a même pas une loi expresse qui institue la société civile telle que nous le disons. Il y a des lois sur les ASBL et autres, mais la société civile en tant que telle n'est pas encore instituée par une loi. Donc c'est des lois éparses sur les ASBL, il faut ramasser dans ces ASBL, dans l'Église est partout. Donc, nous en appelons maintenant à la moralité, au comportement de ces Congolais qui seront choisis, mais dans cette dite société civile.
Alors, parmi les attributions, il y a notamment réalisé les enquêtes sur tous les cas de violation des droits de l'homme, aider, accompagner les victimes à traduire en justice pour des cas de violation des droits de l'homme avérés. Cette commission, bon, peut-on présager qu'elle aura tous les moyens pour son fonctionnement?
Les moyens pour le fonctionnement, justement, elle doit avoir les moyens, c'est une obligation. Parce que c'est l'État congolais qui vient d'instituer la dite commission. Elle est, je vous ai dit, une des institutions d'appui à la démocratie. Celles qui ont précédé, comme la CENI que vous avez évoquée, elle fonctionne. Vous avez vu que les partenaires étrangers ont hésité à donner les moyens à la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle mène à bon port les élections. Mais l'État congolais, via le gouvernement congolais, l'a réalisé. Parce que maintenant, nous sommes en train d'évoluer dans la prise en compte de ces libertés, de ces droits humains. Donc l'État congolais a le devoir, l'obligation d'allouer tous ces moyens à cette commission. Et quant aux moyens financiers, par exemple, ils devront être budgétisés. Pour autant que les moyens financiers, par exemple, seront budgétisés, autant que les moyens à allouer au gouvernement et à toutes les autres institutions ont toujours été budgétisés et réalisés en tant que telle, cette institution qui n'est pas pour tel ou tel, mais qui prend en compte les droits humains de tous les êtres humains. Merci. En République démocratique du Congo et partant de partout, donc elle doit être dotée de tous les moyens et nous y verrons. Tous les Congolais y verront autant que l'État via le gouvernement lui-même.
Alors, brièvement, honorable Makiachi, avant que je ne donne la parole à Fernandez Morola, on a suivi l'honorable Bazaïba parler de la compétence matérielle et territoriale, c'est-à-dire cette commission prendra en compte les droits des Congolais qui sont même à l'étranger, pourrait-on dire, peut-on dire que c'est une première?
C'est une première dans la matérialisation par un instrument juridique. Mais en réalité, elle n'aura pas été une première. Rappelez-vous que lorsqu'il y eut des problèmes en Libye, l'État congolais, le gouvernement de ces régimes, le gouvernement des socialistes, qui est encore tenu par les socialistes dans la législature passée, a dû dépêcher des avions en Libye pour rapatrier les Congolais qui étaient dans le besoin. C'était la prise en compte des droits humains, donc des Congolais vivant à l'étranger, pour ne citer que cet exemple-là.
Merci. Fernandez Morola, vous êtes secrétaire exécutif national du réseau national des ONG de défense des droits de l'homme de la RDC, RENADOC. Comment vous avez reçu l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale?
Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, nous commençons d'abord par remercier les honorables députés nationaux qui ont estimé nécessaire de doter notre pays d'un instrument aussi important, notamment l'instrument institutionnel, donc la Commission nationale des droits de l'homme. C'était prévisible. C'était prévisible pour combien de raisons? D'abord parce que l'actuel président de l'Assemblée nationale est lui-même ici des droits humains, donc c'est vraiment un ancien acteur des droits de l'homme dans ce pays. Le président de la Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale est lui-même issu de ces mouvements qu'on appelle droits humains. Il faut ajouter à ça l'honorable Eve Bazaïba qui venait de parler tantôt, qui est aussi issue de la société civile, même si elle est devenue politique, elle est issue de la société civile et donc est du mouvement des droits humains. Donc on ne pouvait s'attendre qu'à l'adoption d'une telle loi, qui est une loi capitale, qui change en fait, qui change l'image de la République, qui montre à suffisance que ce pays est en voie de devenir demain un état des droits. Mais ce qu'il faudra, comme on a dit tantôt, à cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, il faudra lui donner les moyens nécessaires pour qu'elle soit opérationnelle comme il se doit sur l'ensemble du territoire national, aussi bien en province qu'en territoire. Parce que les défis pour les droits de l'homme et les droits internationaux et humanitaires en République démocratique du Congo sont tellement nombreux et sont multiformes. Il y a des défis à la fois de l'impunité, il y a les défis liés au fait que notre pays, jusqu'à présent, depuis son accession à l'indépendance, n'a pas toujours une politique nationale des droits de l'homme. Il y a les défis liés au fait que la majorité des acteurs politiques qui gèrent l'appareil étatique n'ont pas encore intériorisé les instruments juridiques des droits de l'homme. Et tous ces défis sont des défis qui attendent la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme pour qu'elle arrive effectivement à apporter des solutions idoines aux préoccupations contemporaines des droits de l'homme dans notre pays.
Alors, cette Commission nationale des droits de l'homme sera exclusivement composée de membres de la société civile. Vous l'avez suivi, Fernandez Morola, mais il semblerait que la société civile soit déjà très divisée à ce sujet.
Non, c'est pas tellement le cas. C'est pas tellement le cas. Notre société civile est une société civile dynamique et prospère. Et comme vous le savez, les ONG congolaises des droits de l'homme sont déterminées à animer cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme de la base au sommet. C'est nous qui allons donner la vitalité à cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Ça, c'est un. Vous savez, les droits de l'homme, les acteurs des droits de l'homme sont des acteurs mondiaux. Nous connaissons à l'échiquier mondial qui fait quoi, avec qui et pour quelle population. Et donc, pour ce qui concerne les ONG des droits de l'homme, il n'y a pas de division. Et si nous entrons dans la société civile, dans toute sa diversité, certainement qu'il peut y avoir des divisions quelconques, mais nous savons qui est société civile et qui ne l'est pas. Donc à ce niveau, il n'y aura pas non plus de problème.
Voilà, et le fait qu'elle soit exclusivement composée des membres de la société civile, cela vous rassure-t-il?
C'est le sali même de cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Le fait qu'elle soit essentiellement société civile, c'est son sali. Ça donne le caractère noble, ça renforce son caractère d'une institution citoyenne à part entière, parce qu'une institution citoyenne au vrai sens du mot ne peut être animée que par les acteurs de la société civile.
Mais est-ce que cela vous met, ce fait-là vous met-il à l'abri des influences politiques?
Non plus, pas du tout, il n'y aura pas d'influence politique. Ceux qui seront appelés à animer cette nouvelle Commission nationale des droits de l'homme, ils vont l'animer en toute responsabilité et on sera à l'abri de toute influence politique. Parce que vous savez, les droits de l'homme, quand on tue, on tue. Quand on viole, on viole. Quand on pille, on pille. Il n'y a pas un autre mécanisme pour maquiller ça. Et c'est ça les droits de l'homme en réalité.
Achille Nkoy de Goma en Nord-Kivu, avant que cette loi ne soit votée, avec quoi et comment étaient régis les différents crimes et violations contre les droits de l'homme en RDC? Je pense qu'au lieu de multiplier les commissions et services, un service existait déjà en RDC qui défendait ses droits, il serait mieux de renforcer les différents services qui plaidaient déjà pour les droits de l'homme, Fernandez Mourola.
Oui, j'ai l'impression que notre ami Achille n'a pas tellement la maîtrise, peut-être, de tous les mécanismes à la fois nationaux, régionaux, internationaux qui interviennent en faveur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ce qui est vrai que cette Commission nationale des droits de l'homme est la volonté de tout un peuple, est la volonté de l'ensemble de la société civile, est la volonté généralement est toujours exprimé par les ONG congolaises des droits de l'homme. Donc, ça fait plus de 3 à 4 ans depuis que nous sollicitons une commission nationale des droits de l'homme. Pendant la transition, on avait ce qu'on appelle l'Observatoire national des droits de l'homme, qui était composé des seigneurs de guerre et des acteurs politiques. Cet Observatoire national des droits de l'homme n'a pas pu faire le travail qu'on attendait de lui. Mais l'actuelle Commission nationale des droits de l'homme est une aubaine pour notre pays. Ça doit changer l'image, ça doit contribuer à changer l'image de notre pays et ça doit contribuer à renforcer et à consolider l'état des droits dans notre pays. Et donc, au départ, c'est qu'il y avait seulement des mécanismes que j'appellerais qui intervenaient en faveur des droits de l'homme. Généralement, c'était les ONG des droits de l'homme. Mais les ONG des droits de l'homme, comme vous le savez, l'État a la responsabilité première, a la responsabilité primordiale de promouvoir et de protéger les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il y a des déficits sur ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle les ONG interviennent, les partenaires au développement interviennent, les ONG, quand j'ai pas les ONG, j'ai fait les ONG nationales et internationales. Et ça crée ce qu'on appelle, nous jouons ce qu'on appelle un rôle supplétif, mais la responsabilité première, que ce soit par rapport à la Constitution, que ce soit par rapport aux instruments juridiques internationaux tels que ratifiés par notre pays, la responsabilité première de promouvoir et de protéger les droits de l'homme incombe à l'État.
Maître Guilhem Aléré, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes avocat et consultant auprès des ONG de défense des droits humains et de renforcement des capacités. Quelle lecture vous faites de l'adoption de cette loi sur la Commission nationale des droits de l'homme à l'Assemblée nationale la semaine passée?
Oui, merci beaucoup. Très vite, je me rallie à l'opinion qui a été exprimée par les experts qui sont sur le plateau, notamment M. Fernandez Mourola. C'est effectivement une très bonne chose pour notre pays que l'on puisse ainsi institutionnaliser en quelque sorte le monitoring du fonctionnement des institutions en ce qui concerne le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc c'est vraiment une très bonne chose de permettre ainsi aux administrés en fait, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la définition de la société civile qui est un peu difficile à faire. Bon, moi je la prends ici comme en fait l'ensemble des administrés, donc face à ceux qui gouvernent. Et donc dans ce cas-là, on a donc permis aux administrés de pouvoir exercer un certain droit de regard sur les fonctionnements, le bon fonctionnement des institutions par rapport aux droits qui sont reconnus aux citoyens congolais, aux étrangers qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Alors ce que je voulais ajouter par rapport à cette loi, parce que je crois avoir compris que tout le monde appelle de tous ses voeux que cette loi puisse, que cette commission puisse effectivement jouer le rôle qui est attendu d'elle, c'est de dire que dans une réforme comme celle-là, parce que nous sommes ici dans une réforme qui vise le renforcement de l'état de droit en République démocratique du Congo, eh bien dans une telle réforme, il ne faut pas que cela se fasse de manière compartimentée. Cette réforme doit s'inscrire dans le cadre d'une réforme globale n'est-ce pas, du renforcement du secteur de la justice en général. Je suis en train de dire ici que la commission sera d'autant efficace que la réforme du secteur de la justice aussi sera menée à bien. Parce qu'on a parlé tout à l'heure parmi les missions de la commission, on a parlé des enquêtes à mener autour des cas de violation des droits humains. Eh bien, il faut qu'une fois que les auteurs de ces violations sont identifiés, n'est-ce pas, et qu'ils sont attrés d'abord devant les juridictions nationales, vous savez que c'est comme ça que normalement on doit procéder, eh bien, il faut que les juridictions nationales soient en mesure de prendre correctement en charge les dossiers qui lui sont présentés, notamment par cette commission nationale des droits de l'homme, parce que ce sera des dossiers certainement très documentés, dans la mesure où il y aura dans cette commission, n'est-ce pas, des experts en la matière. Eh bien, il faut que les institutions judiciaires soient en mesure de prendre correctement en charge les contentieux relative aux violations des droits de l'homme, de sorte qu'on n'ait pas à recourir constamment au principe de subsidiarité qui veut qu'en cas de défaillance des institutions judiciaires nationales, l'on puisse recourir à la justice internationale. Eh bien, si du côté de la justice, la réforme se fait aussi de manière cohérente en termes d'infrastructures, de personnel, de renforcement des capacités, etc., eh bien, on aura à ce moment-là une action efficiente de la Commission nationale des droits de l'homme qui sera relayée par une justice qui dit effectivement le droit. Voilà donc ce que je peux dire à ce stade-ci.
Voilà, Maître Maléré, cette loi est inspirée fondamentalement du principe de Paris, mais certains observateurs craignent déjà qu'elle ne soit pas vraiment adaptée aux réalités congolaises. Quelle est votre réaction?
Bon, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent que le concept des droits humains est universel. Et donc, l'homme congolais est exactement semblable à tout homme où qu'il se trouve dans le monde. Et donc, les droits qui sont reconnus, n'est-ce pas, aux Français, c'est exactement les mêmes qui doivent être reconnus aux citoyens congolais en termes de respect de la dignité de la personne humaine, de l'intégrité physique, des droits économiques et sociaux, etc. Donc, par rapport à cela, moi, je suis de ceux qui pensent que les droits humains sont un concept universel et que donc les mécanismes de sa protection ou de leur promotion, eh bien, sont aussi donc universels. Et pour moi, cette loi, cette réforme est heureuse et rien ne peut empêcher qu'elle puisse marcher chez nous, sauf effectivement les problèmes des moyens budgétaires dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, en parlant effectivement des problèmes des moyens, de budget, je cite d'autres attributions, Maître Maléré, de cette commission nationale, de la Commission nationale des droits de l'homme, de s'éveiller notamment au respect des droits des personnes avec handicap, de veiller au respect des droits des personnes de troisième âge, des personnes vivant avec le VIH-SIDA, pour ne prendre par exemple que le cas des personnes avec handicap. On sait que dans d'autres pays, le respect des droits de ces personnes est allé jusqu'à adapter par exemple les infrastructures à ces personnes, et cela demande beaucoup de moyens. Serait-ce possible ici chez nous, quand même on sait comment on traite par exemple les personnes de troisième âge?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Ce problème de moyens est vraiment très important. On ne devrait pas l'aborder avec légèreté, en tout cas au niveau du gouvernement. Si l'on veut effectivement que la commission puisse effectivement faire son travail correctement, il faut que non seulement les moyens soient mis à sa disposition pour qu'elle puisse effectuer son travail de monitoring du fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions par rapport au respect des droits humains correctement, mais il faut aussi que d'une manière transversale, n'est-ce pas, les institutions, soit du gouvernement, qui doivent intervenir pour corriger, n'est-ce pas, les failles qui seront relevées par la commission, puissent avoir les moyens de les faire. Donc la commission peut faire son travail, effectivement, lister, n'est-ce pas, les failles, les défaillances qui font que les droits de la personne vivant avec handicap ne sont pas respectés, mais encore faut-il que les ministères du gouvernement, qui sont censés agir pour corriger la situation, puissent avoir les moyens de le faire. Déjà là, on constate qu'il y a des grands travaux d'infrastructures qui sont en train d'être faits au niveau des routes, par exemple. Merci. Mais est-ce qu'on prévoit des pistes comme ça où des personnes vivant avec handicap peuvent aussi se déplacer soit en tricycle ou autre moyen de déplacement. Est-ce qu'on prévoit des endroits où leur facilite l'accès, n'est-ce pas, à certains bâtiments qui sont en train d'être construits, etc., etc. Jusque-là, non.
Merci.
Donc, ça veut dire qu'au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat, par exemple, il n'y a pas un suivi d'une coordination, n'est-ce pas, de l'action de ce ministère-là, par exemple, avec les exigences des respects, par exemple, des droits des personnes vivant avec handicap.
Merci.
Il y a donc tout un problème de coordination à faire entre l'action de cette institution et les autres institutions qui interviendront par rapport aux failles qui seront listées par, n'est-ce pas, la Commission nationale des droits de l'homme.
Merci, Maître Guilain Maléré. Maître Willy Makiachi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bruxelles, en Belgique.
Docteur Maëlle Guilema, j'habite Bruxelles, en Belgique. Est-ce que cette commission sera-t-elle indépendante? Pourquoi créer une commission des droits de l'homme si d'abord notre justice fonctionne à deux vitesses? Si les intouchables ne sont pas inquiétés, quel que soit leur forfait, qu'est-ce que cette commission va-t-elle faire? En tout cas, selon moi, il faut d'abord que notre justice soit d'abord indépendante.
Maître Makiachi, vous avez suivi Maître Guilain Maléré. La réforme finalement globale du secteur de la justice ne serait-elle pas l'un des préalables à la mise en place de cette commission, de la Commission nationale des droits de l'homme?
Bien entendu, parce que la Commission nationale des droits de l'homme, en principe, c'est aussi un instrument qui vient renforcer la justice et qui doit être renforcé par la justice. Donc il y a une relation mutuelle entre les deux. La justice pour renforcer cette commission, la commission pour renforcer la justice, parce que lorsque la commission va procéder aux enquêtes, par exemple, mais où est-ce qu'elle va verser ces enquêtes-là? Elle doit verser les enquêtes, in fine, lorsque les infractions auront été constatées et définies et qualifiées à leur niveau de la commission, il faudra que la commission verse ces éléments au niveau de la justice qui va connaître de ces affaires-là selon les degrés de l'affaire et leur qualification. Alors, la justice doit être réformée, ça c'est de mise, même si cette commission n'avait pas encore été mise en place. Mais les droits humains sont reconnus, comme l'ai-je dit, par une trentaine d'articles déjà de la Constitution. Donc la justice doit être une justice d'État. Rappelez-vous que dès son entrée en fonction comme premier ministre de la première législature de la Troisième République, Antoine Gizenga a dit « Je ferai de la justice mon cheval de bataille pour la refondation de l'État. » Justice, cheval de bataille pour la refondation de l'État. Encore que la Bible ne cesse de dire que c'est la justice qui élève une nation. Donc ça, c'est tout à fait de rigueur. Aussi, rappelez-vous qu'au niveau de la justice elle-même, il y a la prise à partie, il y a cette loi ici qui vient pour instituer la loi sur les statuts du magistrat. Vient instituer aussi la prise à partie pour que ce que l'auditeur venait de dire, ce que Maître Malher avait dit, pour que cette justice ici soit renforcée. Parce que l'arbitraire, je vous ai dit en prélude que parmi les apports que cette loi apporte, cette commission apporte dans cette loi, il y a le fait qu'elle vient minorer l'arbitraire. Mais l'arbitraire vient d'où? L'arbitraire vient de la justice lorsque la justice n'est pas juste. Elle vient minorer l'arbitraire. Et pour minorer cet arbitraire, la prise à partie passe pour un apport important. De telle sorte que lorsque un magistrat, un juge, n'a pas bien dit les droits, n'a pas dit la justice de la manière juste, la prise à partie va le frapper pour que on les rappelle à l'ordre. Donc ce que les autres auditeurs ont dit est important, mais tout ceci, elle-même, la commission, est un instrument pour renforcer également la justice. Parce que la commission va décrier également le fait que la justice n'aura pas bien fonctionné, ça devrait être décrié. C'est aussi un autre instrument à marge de la justice pour contrôler aussi la justice.
Maître Makiachi, une attribution, je vais lire une autre attribution, d'orienter les victimes et de les accompagner à traduire en justice sur toutes les violations avérées des droits de l'homme. Pourquoi l'adjectif avéré et non simplement violation des droits de l'homme?
Justement, on doit dire avéré. Avéré, c'est-à-dire attesté. Lorsqu'il est attesté, pourquoi y aura-t-il enquête? Il y aura enquête pour arriver à attester, à déterminer, à réaliser qu'il y a commission d'infraction. Parce que on doit éviter l'arbitraire, non seulement au niveau de la justice, au niveau du fonctionnement des autres institutions étatiques, mais l'arbitraire doit être aussi évité au niveau de la commission. Tous sont des êtres humains. C'est un pouvoir qui leur est accordé. Or, tout pouvoir tel que détenu par un être humain est souvent appelé à en abuser. Et pour qu'il en abuse, plutôt, il faudra que les pouvoirs contrôlent les pouvoirs. Donc, la commission elle-même doit aussi être contrôlée. Donc, il faudra que l'infraction ou la violation, disons, soit avérée, doit être attestée. Et cela par des éléments probants.
Merci, Fernandez Moreau. Là, il y a une autre réaction qui nous vient de Bruxelles, en Belgique, pour vous.
Arnold Denialoma Mouladano, à partir de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il me semble qu'une telle commission ne peut être efficace que dans un environnement politique et institutionnel ouvert à la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Or, dans le cas de la RDC, cette commission apparaît beaucoup plus comme un cadeau offert à François Hollande plutôt que à une nécessité ressentie par le gouvernement. Dans ces conditions, il y a des risques que, comme la Haute Autorité de Médias ou la CENI, cette commission soit phagocytée par le tenant du pouvoir sans effet réel pour les administrés. Par ailleurs, l'efficacité d'une telle commission implique une indépendance réelle de nature à infléchir la volonté des gouvernants. Or, on a observé pour le cas du Congo que la Cour constitutionnelle ou la Cour des comptes, qui était mieux outillée, demeure bloquée jusqu'à ce jour. Toutefois, en dépit de ce blocage, il me semble que cette commission doit s'analyser comme une nouvelle opportunité que les administrés vont saisir pour faire évoluer le droit, que les gouvernants aussi devraient saisir pour apaiser le rapport et donc faciliter les dialogues entre gouvernants et gouvernés.
Fernandez Moreau, la réaction.
Oui, merci beaucoup et je salue en passant mon collègue Arnold Denialoma qui a appelé de Bruxelles. Et en fait, ce qui est vrai est que nous sommes dans un processus. J'ai suivi très bien les interventions de Maître Willy Makiachi et Maître Guillaume Alleret. Il est vrai qu'au-delà de la réforme du secteur de la justice, il est également important, indispensable, qu'on procède à une réforme en profondeur des services de sécurité. Et quand vous voyez par là, donc il y a l'armée et la police nationale. Nous continuons à plaider pour qu'il y ait le vetting de ces services, parce que sans ces vetting, sans l'assainissement de la police, sans l'assainissement de l'armée, la justice ne saura pas être opérationnelle, les droits de l'homme non plus. Donc, nous continuons à plaider. Donc, en amont, on crée une commission nationale des droits de l'homme. En aval, il faudrait absolument qu'on arrive à extirper et à exfiltrer des rangs de l'armée nationale, des rangs de la police nationale congolaise, des officiers et tous les militaires gradés qui sont rendus coupables des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Donc, il faut absolument qu'on commence par là. On réforme l'armée, la police, les services de sécurité et de renseignement. On réforme la justice. Et puis, on donne les moyens nécessaires à la Commission nationale des droits de l'homme pour qu'elle accomplisse comme il se doit son mandat. Et ce n'est qu'à ce titre-là que nous pouvons avoir une commission nationale digne de notre nom, nous comme République démocratique du Congo, nous comme premier pays francophone du monde.
Alors, cette commission nationale des droits de l'homme, Fernandez Moreau, là, pourrait-elle avoir un apport dans l'amélioration du respect des droits humains en RDC? Peut-on l'espérer et à quelles conditions d'après vous? Vous venez de citer la réforme des services de sécurité, de la police, de l'armée. Que faut-il de plus?
Oui, tout à fait, c'est un combat. J'ai dit tantôt que c'est un combat. Pour qu'on ait aujourd'hui la commission nationale des droits de l'homme, moi-même, j'ai conduit la délégation de la société civile qui a rencontré le président François Hollande. On a échangé pendant 45 minutes. Et on a échangé par rapport à toutes ces questions que les amis, les uns et les autres sont en train de poser. Moi, je vous informe que ce pays ne mérite pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut absolument que ceux qui gèrent l'appareil étatique comprennent que nous devons progressivement changer l'image de la République. Et dans ce processus du changement de l'image de la République, il y a des décisions à prendre, il y a des institutions à mettre en œuvre. On a dit tantôt ici qu'il faut absolument qu'on mette en œuvre la Cour des comptes, qu'on mette en œuvre la Cour constitutionnelle. Je vais aller au-delà, il faut qu'on mette la Cour constitutionnelle, il faut qu'on mette en œuvre les conseils économiques et sociaux, etc., etc. Ce sont des institutions consacrées par la Constitution. Et l'image de notre pays sera tributaire de tout ça. Et quand on met en œuvre ces institutions, il faut que ce soit des réformes, les vraies. Et quand on met en œuvre toutes ces institutions, il faut absolument qu'on dote ces institutions des moyens efficaces pour accomplir comme il se doit leur travail.
Maître Serge Wessa, cette commission ne fera pas grand-chose comme tant d'autres, car le pouvoir en place ne la laissera pas faire son travail. Nous savons comment le gouvernement s'acharne chaque fois qu'il y a publication des rapports des ONG des droits de l'homme. Tout passe par une bonne gouvernance, Fernandez Morola.
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Pour nous, cette commission est un des instruments de la bonne gouvernance. Mais il faut que cette commission soit animée par des gens à même à donner l'image qu'il faut par rapport à tous les défis des droits de l'homme dans notre pays. Nous sommes un berceau de l'impunité aujourd'hui. Nous avons des milliers de victimes qui manquent de justice, qui ne savent pas où aller, des victimes dont même la Cour pénale internationale est incapable de répondre à leurs préoccupations. Donc il faudrait absolument que cette commission existe, que cette commission puisse avoir des animateurs clés pour l'animer comme il se doit. Il faudrait absolument que cette commission puisse avoir des moyens nécessaires pour qu'elle soit opérationnelle sur l'ensemble du territoire national, parce que notre pays est vaste. Et tout ça, quand vous mettez tous ces ingrédients en marche, elle peut faire ce travail. Mais parallèlement à l'opérationnalisation de la commission, il faut absolument et même impérativement qu'on procède à la réforme des services de sécurité, à la réforme de la justice, ainsi que la réforme de l'armée et de la police nationale congolaise.
Quel pourrait être l'apport, l'impact de la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme dans l'amélioration du respect des droits humains en RDC? Maître Maléré, il y a Maître Francis Bonjemba qui nous appelle de Kinshasa pour vous.
Maître Francis Do Joseph Bonjemba depuis Kinshasa, RDC. La RDC est un des plus grands états législateurs des lois mortes au monde. Cette loi n'aura pas d'impact visible car elle naît dans un contexte tendu, car les droits de l'homme n'existent plus dans le vocable congolais. L'Assemblée nationale ne doit pas prendre les risques de se décrédibiliser en mettant la charrue devant le bœuf. Elle doit d'abord régler les violations intempestives du droit de l'homme à l'Est en lieu et place d'adopter
J'ajoute la réaction de John Kazadi, c'est de la distraction, de la poudre aux yeux, juste pour faire voir que les choses commencent à aller bon train dans notre pays. On adopte plusieurs lois qui restent inappliquées, surtout violées, Maître Maléré.
Oui, merci beaucoup. Je pense que le scepticisme, n'est-ce pas, des auditeurs est justifié, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de bonnes lois dans notre pays. Il y en a même beaucoup. Qui ne sont pas mises en œuvre, justement. Et ceci peut refroidir, n'est-ce pas, l'espérance de certains, avec raison. Vous savez, néanmoins, ceci ne veut pas dire que puisque d'autres lois sont demeurées lettres mortes, je prends par exemple la loi sur l'exercice du petit commerce réservé exclusivement par exemple aux nationaux, vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme débat, et cette loi date des années 73, et nous sommes en l'an 2014, on cherche encore à la mettre en application. Donc effectivement, il y a des lois comme ça qui sont prises, qui sont importantes dans leur intention, mais qui finalement, pour des raisons diverses, n'est-ce pas, ne sont pas appliquées. Donc la crainte est tout à fait fondée. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause du phénomène de la mondialisation, les nations ne savent plus évoluer en vase clos. Et de plus en plus, l'exigence du respect des droits humains et des principes de la bonne gouvernance, n'est-ce pas, conditionne l'intégration des nations dans la communauté internationale, dans la communauté des nations. Et donc, pour un pays comme le nôtre, qui a vocation à s'inscrire sur tous les plans dans la vie internationale, eh bien, il lui pèse, n'est-ce pas, l'exigence de se conformer aux standards internationaux en matière de respect des droits humains. Donc, c'est presque un impératif. Cette loi, ce n'est pas un cadeau du gouvernement, comme d'aucuns peuvent le penser, mais c'est en fait une exigence à laquelle le gouvernement a été en quelque sorte ou disons, parlons des gouvernants, hein, des dirigeants en général, ont été en quelque sorte obligés de se plier. Donc par rapport à cela, donc on peut dire que la genèse, n'est-ce pas, de cette loi, de cette commission, est telle que l'on peut espérer que puisqu'elle vient répondre à une nécessité, eh bien elle a des chances de vivre. Mais le talon d'Achille dans tout ce qui a été dit ici, le talon d'Achille de la Commission nationale des droits de l'homme, ce sera justement la question des finances, la question du budget. Et dans quelle mesure ceci est un obstacle pour son bon fonctionnement, c'est dans la mesure où l'exécution du budget finalement dépend des gouvernés. Des gouvernés qui sont les principales cibles du monitoring, qui sont les principales cibles du monitoring qui sera exercé par cette commission. Donc, ce sera très facile pour des personnes détenant une parcelle de pouvoir qui se sentiront menacées par l'action de cette commission, de jouer par exemple sur le levier de l'exécution du budget pour freiner ses actions. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministères du gouvernement qui ont sur leur agenda d'innombrables actions humanitaires, notamment en faveur de la population, mais qui ne parviennent pas à mettre en exécution leur calendrier, leur agenda, tout simplement parce que les moyens budgétaires qui ont déjà été votés, alloués sur papier, mais ne sont pas exécutés effectivement. Le ministre peut engager ou le président de la commission, je ne sais pas qui aura la signature, peut signer des bons d'engagement, n'est-ce pas, des fonds, mais si le ministre des Finances ou le ministre qui a les finances dans sa charge n'exécute pas, ne met pas les fonds à disposition, ça peut être une façon sournoise, n'est-ce pas, de mettre des embûches dans le fonctionnement des institutions.
Merci. Merci, Maître Maléré. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Honorable Willy Makiachi, il y a Martin Mundele de Kananga au Kasai Occidental qui dit « La violation des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme se vivent même dans les coins les plus reculés du pays, c'est-à-dire les territoires et villages. Est-ce que la commission mise sur pied sera dotée de tous les moyens possibles pour atteindre ces coins ou bien elle va s'intéresser à une poignée de la population dans les villes et centres urbains? N'a-t-il pas raison de s'inquiéter, Maître Makiachi, quand on sait comment les institutions qui sont représentées dans les provinces souffrent et peinent pour fonctionner? Brièvement, je vous en prie.
Merci. Mais l'auditeur a vraiment raison de s'inquiéter parce que c'est le cas que nous vivons dans la prise en compte des desiderata et des populations, surtout celles qui sont éloignées des milieux urbains ou des milieux où les institutions sont installées tant dans la capitale qu'en province. Mais ici, nous avons dit que nous allons y veiller, tous les Congolais doivent y veiller. On ne peut pas se décourager parce que l'instrument juridique manqué, il vient en complément pour minorer justement l'arbitraire et d'autres abus. La décentralisation en vue, qui est déjà instituée par la Constitution, mais qui doit être matérialisée pour sa mise en œuvre. Mais cette décentralisation va également être une solution par rapport à toutes ces populations éloignées du siège des institutions qu'est la capitale et de la République démocratique du Congo. Alors, donc, et la territorialité dont on a parlé va être maintenant d'application parce que les entités administratives décentralisées seront également des milliers où la Commission nationale des droits humains doit installer aussi ces structures.
Alors, Maître Makiachi,
tous les êtres humains.
En guise de conclusion, juste un mot, je vous en prie, pour conclure.
Merci beaucoup. En guise de conclusion, nous pourrons dire que nous encourageons, félicitons le gouvernement et tout le monde qui a concouru à cela. Vous voyez que dans le débat, dans les échanges, les inquiétudes peuvent être soulevées, mais les espoirs sont là en train d'être acceptés par tout le monde.
Merci.
C'est un instrument qui vient à point nommé et nous pouvons y croire.
Merci. Fernandez Amorola, Maître Maléré a parlé du tendon d'Achille, de cette loi qui reste les finances. La volonté politique ne serait-elle pas la réponse à cette préoccupation en guise de conclusion?
La volonté politique, oui. Parce que s'il n'y avait pas de volonté politique, aujourd'hui on n'aurait pas cette proposition de loi adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu non seulement la volonté politique, mais il y a aussi des pressions exogènes et endogènes. Ça fait plus de 3 ans que nous travaillons en synergie avec les réseaux parlementaires des droits de l'homme autour du même projet de loi depuis son adoption par le Sénat. C'est donc pour vous dire que ça a toujours fait l'objet de notre préoccupation et de nos synergies. Et je pense que, tel que je l'ai dit tantôt, donc il n'y a pas d'autre formule Il faut absolument que la loi soit là, donc que la loi soit promulguée, il faut que la commission soit effective, il faut que la commission puisse avoir les moyens opérationnels nécessaires, il faut que la commission soit décentralisée dans les provinces et sur l'ensemble de nos territoires. Il faut absolument qu'on procède parallèlement à la réforme aussi bien de la police, de l'armée et des services de sécurité. Ça ces réformes, la Commission nationale des droits de l'homme ne sera pas à mesure de rendre les services que le peuple attend de celle-ci.
Maître Guilhem Aléré, placez juste un mot pour terminer.
Oui, j'en mets deux, un style télégraphique. Premièrement, en attendant son implantation sur toute l'étendue du territoire, le souhait c'est que la Commission puisse travailler dans un premier temps en synergie avec les associations.
Voilà, désolé, on ne retiendra qu'un seul point. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi. Au revoir.